En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
À 7h48 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez le ministre de l'économie.
Bonjour François Baroin.
Bonjour.
Nicolas Sarkozy n'a que 57 ans, faisons cette rectification. Si je perds, j'arrête tout, a-t-il dit en substance hier. C'est sans doute très franc, mais à quoi ça sert de le dire comme ça?
Je crois que c'est un homme libre, il est... Je crois qu'il veut surtout démontrer l'immense sincérité à la fois de sa démarche comme président de la République et de sa démarche comme candidat auprès des Français.
Mais c'est pas mobilisateur, ça.
On lui pose une question, il répond. Vous pouvez pas d'un côté dire...
Il y a plein de questions qu'on pose et on ne répond pas toujours aussi franchement.
Mais je crois qu'il a décidé de répondre à toutes les questions.
Ah bon?
Sans phare, sans préoccupation de l'interprétation, juste pour montrer pourquoi il a fait ce qu'il a fait pendant 5 ans et pourquoi il porte ce projet de ce qu'il veut effectuer au service de la France pour les 5 années qui viennent.
C'est pas démobilisateur pour des militants d'entendre ça, voilà, si je perds j'arrête, voilà, tant pis. C'est pas très dynamique, quoi.
En tout cas, c'est très sincère, c'est très franc, et ça veut pas dire qu'on interprète une éventuelle issue défavorable. Ça veut dire, au contraire, que cette campagne doit être la campagne de la sincérité sur tous les plans. Les regrets, peut-être les remords, les échecs, mais aussi les succès, et peut-être aussi en creux dessiner une autre campagne d'un autre candidat qui, lui, essaye de masquer une réalité, une vérité, pas sur lui-même, mais peut-être sur son projet.
Et pour en finir avec ça, vous ne craignez pas que ça renforce un côté référendum dans cette élection présidentielle, pour ou contre Nicolas Sarkozy?
Comme pour toutes les élections présidentielles, il y a une forme de référendum ou de plébiscite pour les présidents sortants. Donc cette question, quelle que soit la forme et quelles que soient ses interrogations personnelles à lui, elle fera partie du débat.
Bon. On n'a pas compris l'annonce qu'a faite Nicolas Sarkozy mardi à propos d'un nouvel impôt sur les grandes sociétés. On n'a eu ni l'assiette, ni les sociétés concernées. Est-ce que vous pouvez, François Baroin, nous donner quelques éléments?
Les entreprises concernées sont les grands groupes comme, par exemple, les groupes qui sont visés par la taxe sur les transactions financières qu'on a fait voter. Vous savez que ça a été voté il y a une dizaine de jours. C'est des entreprises qui ont leur siège en France et dont la capitalisation boursière est au moins égale à 1 milliard. L'assiette est celle-ci. Le taux n'a pas encore été fixé, mais il faudra qu'on définisse les paramètres. On pourra prendre en compte le chiffre d'affaires plus que le résultat. L'idéal était très simple.
Chiffre d'affaires mondial.
Chiffre d'affaires mondial, qui n'engage pas, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là, une remise en cause des conventions fiscales que l'on a avec les pays. L'idée, elle est assez simple, c'est que vous avez des entreprises dont l'activité, pour une bonne partie bénéficiaire, s'effectue à l'étranger. Ce qui a comme conséquence sur le plan fiscal que ces entreprises ne payent pas d'impôts en France. C'est difficile à accepter, donc si on globalise l'ensemble sur le chiffre d'affaires dans un premier temps, cela permettra à ces entreprises à hauteur d'une capitalisation boursière, comme je disais, d'un milliard, de faire entrer 2 à 3 milliards de plus dans les caisses de l'État. C'est quand même pas rien et c'est assez juste.
Elles paient de l'impôt à l'étranger. Elles peuvent en payer en France si elles font des bénéfices en France, mais quand elles font des bénéfices à l'étranger, elles paient des impôts à l'étranger.
On paye de l'impôt sur les résultats effectués, sur les bénéfices, et elles payent de l'impôt à l'étranger lorsqu'elles font des bénéfices à l'étranger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, par exemple, une entreprise comme Total, qui était dans un bénéfice mondial consolidé, ne payait que très peu d'impôts en France, puisque ses activités de raffinerie en France étaient déficitaires. Donc là, si on prend le chiffre d'affaires...
C'est très légitime d'aller les taxer parce qu'elles gagnent de l'argent à l'étranger. Enfin, on a l'impression que la voracité de l'État n'a aucune limite. Vous ne gagnez pas d'argent en France, vous ne payez pas d'impôts en France,
c'est normal, mais
vous en payez quand même.
Non, l'État, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui nous écoutent, sont les contribuables. Vous n'êtes pas vorace, je ne suis pas vorace, nous ne sommes pas voraces. On a en revanche une période de tension budgétaire, de disette budgétaire. On a l'obligation aussi de trouver des politiques publiques qui soient empreintes de justice sociale, c'est-à-dire le sentiment que tout le monde participe à l'effort qui est demandé. On doit faire des efforts.
C'est important, la justice sociale.
La justice sociale est importante. La justice fiscale l'est également. L'équilibre des comptes tout autant. Et la volonté de faire partager les efforts par tous dans une période qui va nous emmener, sur les 3-4 années qui viennent jusqu'à l'équilibre budgétaire, à continuer de demander des efforts. Il est faux de dire qu'on va pouvoir raser gratis. Et c'est un peu ce qui se passe. Quand je vois François Hollande, les socialistes... oui, ça vous amuse peut-être. Non, je ne sais pas pourquoi vous riez lorsque je dis François Hollande.
Parce que je voulais vous poser une autre question
pour
François Hollande. Oui, je vous laisse parler.
Allez, oui, je veux dire, il fait un pas en avant sur tous les sujets fiscaux, budgétaire, économique, 2 pas sur le côté, à gauche, 3 pas en arrière, puis 1 pas à droite, puis 1 demi-pas, la pointe des pieds, le talon. C'est le roi du Madison, François Hollande. C'est le Al Brown de la campagne présidentielle 2012, c'est le je sais pas quoi, le Carlos Gardel du tango moderne, si vous voulez.
Allons-y.
Voilà, c'est ça aujourd'hui. Eh bien nous, c'est une démarche sincère avec une visibilité, un programme, un projet, une stratégie et un calendrier.
Justice sociale, disiez-vous, c'est pour ça que je riais, parce que j'allais vous parler de François Hollande. Son idée de mettre une tranche d'impôt sur le revenu à 75%, c'est au nom de la justice sociale, dit-il.
Oui, alors, oui, mais alors, vous êtes d'accord ? Comme disait Prévert, ce qui tombe sous le sens rebondit ailleurs. C'est-à-dire qu'il a probablement pris une mouche qui vole pour une idée, il était à la télévision en direct, et il s'est dit, tiens, on va taxer les riches, il me faut quelque chose. Cahuzac, président de la commission des finances, tombe de l'armoire.
Oui,
Moscovici, avec qui j'étais en débat le lendemain, était gêné.
Non, mais ça les 75%, vous parlez de justice sociale.
Pour être sérieux.
C'est juste ou pas juste de faire une tranche d'impôt sur le revenu à 75%.
Ça, c'est
pour
absurde.
Les gens qui ont plus d'un million d'euros.
Il est juste, et nous l'avons fait, puisque nous l'avons fait voter à l'automne dernier. Nous avons demandé une contribution exceptionnelle, le temps de la crise et le temps du retour à l'équilibre budgétaire, à 3% pour les plus de 250 000 euros, à 4% pour les plus de 500 000 euros. Nous l'avons fait, le temps de la crise. Le temps de la crise. Mais entre 45%, qui est la proposition de la tranche maximale et marginale proposée par les socialistes, et 75%, vous avez une marge que personne ne peut franchir. Et quelle sera la conséquence de ça ? C'est pas tellement que les footeux seront en difficulté et que ça va mettre en difficulté la qualité du jeu de la Ligue 1. Et en plus, j'aime bien le foot. Mais d'un autre côté, je suis comme tout le monde choqué de déséquilibre qui existe entre les déficits des clubs et la rémunération des joueurs. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le message adressé qu'un pays comme la France, vis-à-vis de tous les talents, de tous les investisseurs, est un pays qui va spolier. Ce sera de la spoliation.
La Grèce, pour terminer, François Baroin, c'est désormais officiel, depuis quelques minutes, 95% des créanciers privés acceptent d'effacer une partie de la dette qu'ils détenaient auprès de la Grèce. J'imagine que c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, c'est un beau succès, c'est quelque chose qui nous permet à la fois de rester sur une base volontaire, qui évite le défaut, donc le risque de faillite pour la Grèce, qui nous permet d'atteindre tous les objectifs que nous étions fixés. Et je veux dire quand même d'où nous venons à la sortie de l'été. On a eu une crise tellurique qui a donné l'impression que le sol se dérobait sous nos pieds. On a énormément travaillé. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel ont fixé un cap en décembre. Nous, ministres des Finances, on a atteint l'objectif, le mandat qui nous avait été fixé. Maintenant, il reste à réaliser cela dans la durée. Et c'est pour ça que là aussi, prendre le risque de le remettre en cause, c'est prendre le risque de nous faire replonger dans une crise.
Redoutez-vous que l'Espagne, qui a des déficits supérieurs à ceux qui attendus, prenne la même voie que la Grèce, François Baroin ?
On a confiance dans le gouvernement espagnol qui fait un gros travail. Vous savez que l'Espagne, effectivement, a un gros niveau de déficit, mais un niveau de dette qui est aujourd'hui, actuellement, dans les clous de Maastricht. Donc, ils ont aussi des qualités.
François Baroin, avec des références chorégraphiques solides. Oui.
Jean-Michel, le grand jury dimanche ?
Le grand jury dimanche, c'est une bonne question, Jean-Marc Ayrault.